Chapitre 10. Le seigneur de la ceinture flamboyante et sa confidente. Le destin écrit sa prophétie en lettres rouges, mais qui pourra le lire? Arbacès avait attendu jusqu'au moment où la fin de l'orage lui permettrait d'aller, sous la protection de la nuit, trouver la saga du Vésuve. Porté par les plus fidèles de ses esclaves, ceux auxquels il avait l'habitude de se confier dans ses courses les plus secrètes, il était étendu dans sa litière, il abandonnait son cœur ardent à des idées de vengeance heureuse et d'amour satisfait. Les esclaves, dans un si court voyage, ne marchaient pas beaucoup plus lentement que les mules. Arbacès ne tarda pas à arriver à l'entrée d'un étroit sentier que les amants n'avaient pas eu la bonne fortune de découvrir, et qui, serpentant à travers les vignes, conduisait promptement à l'habitation de la sorcière. Il quitta alors sa litière, et commandant à ses esclaves de la cacher dans les vignes et de s'y dérober eux-mêmes à la vue de tout promeneur, il monta seul en s'aidant d'un long bâton le rude et dur chemin des rochers. Il ne tombait plus une goutte de pluie du ciel serein, mais l'eau s'épanchait le long des vignes et formait çà et là des flaques dans les crevasses et dans les ornières du sentier rocailleux. Étrange passion pour un philosophe, pensa Arbacès, que celle qui fait lever un homme comme moi, presque de son lit de mort, un homme accoutumé, même en santé, à toutes les jouissances du luxe, et qui le conduit dans une nocturne expédition semblable à celle-ci. Mais l'amour et la vengeance, quand ils marchent à leur but, peuvent transformer le Tartare en Élysée. La lune, au haut des cieux, répandant une lumière claire et mélancolique sur la route du sombre voyageur, se réfléchissait dans chaque miroir d'eau auprès duquel il passait, ou dormait dans l'ombre sur les flancs de la montagne. Il vit devant lui la même lumière qui avait guidé les pas des deux amants dont il voulait faire ses victimes. Mais n'ayant plus pour contraste les sombres nuées de l'orage, elle paraissait moins rouge qu'elle ne leur avait paru. Il s'arrêta en approchant de la caverne pour reprendre haleine. Puis, avec le maintien recueilli et majestueux qui lui était habituel, il franchit le seuil mystérieux. Le renard s'élança encore à la rencontre du visiteur et annonça par son grognement à sa maîtresse l'arrivée du nouveau venu. La sorcière avait repris son siège et son attitude sépulcrale. À ses pieds, sur un lit de feuilles sèches qui le recouvrait à moitié, reposait le serpent blessé. Mais l'œil pénétrant de l'Égyptien vit ses écailles brillantes à la lueur du foyer, pendant que le reptile se tordait, tantôt allongeant et tantôt raccourcissant ses anneaux, avec une expression à la fois de douleur et de courroux. « Silence, esclave !» dit encore la sorcière au renard. Et l'animal se recoucha, comme il l'avait déjà fait, muet et vigilant. « Lève-toi, servante de la nuit et de l'Erem, » dit Arbacès avec autorité. Un être supérieur à toi dans ton art te salue. Lève-toi et fais-lui bon accueil. » À ces mots, la sorcière tourna la tête et jeta un regard sur la taille majestueuse et sur les sombres traits de l'Égyptien. Elle le regarda longtemps et fixement, pendant qu'il se tenait devant elle dans sa robe orientale, les bras croisés, le front haut et imposant. « Qui es-tu ? » dit-elle enfin. « Toi qui te prétends plus élevé dans un art que la sorcière des champs brûlés et la fille de la race détruite des Étrusques. » « Je suis, » répondit Arbacès, « celui dont tous ceux qui cultivent la magie du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis le Gange et le Nil jusqu'aux vallées de la Thessalie et aux rives du Tibre jaune, sollicitent et le sont. »
« Il n'y a qu'un être de cette espèce dans le pays, » répondit la sorcière. «
celui que les âmes du monde entier, qui ignorent ses sublimes attributs et sa secrète renommée, appellent Arbacès l'Égyptien. Pour nous, d'une nature plus haute et d'un savoir plus profond, son nom véritable est Hermès à la ceinture flamboyante.
Regarde donc, reprit Arbacès, je suis cet homme.
En prononçant ces paroles, il ouvrit sa robe et fit voir une ceinture couleur de feu qui semblait brûler autour de sa taille, ceinture retenue au milieu par un anneau sur lequel était gravé un signe en apparence vague et inintelligible, mais qui n'était pas évidemment inconnu à la sorcière. Elle se hâta de se lever et se jeta aux pieds d'Arbacès.
J'ai vu, dit-elle d'une voix excessivement humble, le seigneur de la ceinture flamboyante. Oh, qu'il reçoive mon hommage!
Lève-toi, dit l'Égyptien, j'ai besoin de toi.
Il s'assit en même temps sur la poutre où s'était assis Ionné et fit signe à la sorcière de reprendre son siège.
Tu dis, reprit-il quand elle eut obéi, tu dis que tu es une fille des anciennes tribus étrusques, dont les vastes murs, bâtis sur le roc, contemplent aujourd'hui encore avec mépris la race des brigands usurpateurs de leur ancien empire. Ces tribuns vinrent en partie de la Grèce, en partie d'un climat plus brûlant, d'une terre plus primitive. Dans l'un et l'autre cas, tu es d'origine égyptienne, car les maîtres grecs des îlots aborigènes furent au nombre des enfants turbulents que le Nil rejeta dans son sein. Tu descends également aux sagas d'ancêtres qui jurèrent obéissance au mien. Par la naissance aussi bien que dans la connaissance de ton art, tu es sujette d'Arbacès. Écoute-moi donc et obéis.
La sorcière baissa la tête.
Quelle que soit notre science en magie, dit Arbacès, nous sommes parfois obligés d'employer des moyens naturels pour atteindre notre but. L'anneau, le cristal, les cendres, les herbes ne nous donnent pas des pronostics certains. Les mystères plus sublimes de la lune elle-même n'accordent pas au possesseur de la ceinture le privilège de se dispenser de la nécessité de recourir à des mesures humaines pour parvenir à un but humain. Remarque donc ceci. Tu es profondément versé, je crois, dans la connaissance des herbes vénéneuses. Tu sais quelles sont celles qui arrêtent le cours de la vie, qui embrasent et consument l'âme et la tirent de force de sa citadelle, ou bien qui se glissent dans les canaux d'un jeune sang et les épaississent de telle façon qu'aucun soleil ne peut fondre cette glace. Ai-je trop présumé de tes talents ? Réponds franchement.
Puissant Hermès, cette science est en effet la mienne. Daigne regarder seulement ses traits, pareils à ceux d'un fantôme, d'un vrai cadavre. S'ils ont perdu les couleurs de l'existence, c'est seulement pour s'être penchés sur les herbes qui, nuit et jour, cuisent dans ce chaudron.
L'Égyptien se recula involontairement à la pensée de ce breuvage infernal et malsain.
C'est bien, dit-il, tu connais le conseil de la science à ses disciples. Méprise le corps pour rendre l'âme plus sage. Mais continue ta tâche. Demain, à l'heure où les étoiles brilleront dans le ciel, viendra te voir une jeune fille pleine de vanité qui réclamera de ton art un philtre amoureux capable de détourner d'une autre les yeux qu'elle ne voudrait pas voir s'attacher que sur elle. Au lieu de filtre, donne à cette jeune fille un de tes plus puissants poisons. Que l'âme de son amant aille rejoindre les ombres.
La sorcière trembla de la tête aux pieds.
« Oh, pardon, pardon, maître redoutable, dit-elle d'une voix affaiblie. Je n'oserais faire cela. Les lois de la cité sont rigoureuses et vigilantes. On m'arrêtera, on me tuera. À quoi te servent donc tes herbes et tes breuvages? Reprit Arbacès d'un ton amer. La sorcière cacha son odieuse figure entre ses mains.
Oh, il y a bien des années, poursuivit-elle, avec une voix différente de sa voix habituelle, tant elle était plaintive et douce, je n'étais pas celle que je suis à présent. J'ai aimé, je me suis cru aimée.
Mais quel rapport y a-t-il, sorcière, entre ton amour et mes ordres? Répliqua Arbacès avec impatience.
Patience, reprit la sorcière, patience, je t'en conjure. J'aimais. Oh, une autre moins belle que moi, oui, par Némésis, moins belle, éloigna de moi mon amant. Alors j'appartenais à cette sombre tribu étrurienne qui connaissait le mieux les secrets de la magie occulte. Ma mère était elle-même une saga. Elle partagea le ressentiment de sa fille. Je reçus de ses mains le breuvage qui devait me rendre celui que j'avais choisi. Mais je reçus aussi d'elle le poison qui devait anéantir ma rivale. Oh, que ces murs terribles m'écrasent! Ma main tremblante se trompa de filtre. Mon amant tomba à mes pieds, mais mort, mort! Depuis, qu'est-ce que la vie a été pour moi? Je deviens vieil subitement. Je me dévouais moi-même aux sorcelleries de ma race. Mais par une impulsion irrésistible, je me suis maudite et condamnée à une horrible expiation. Je recherche encore les herbes les plus vénéneuses. J'en extrais les poisons, je me figure qu'ils sont destinés à ma rivale détestée. Je les verse dans une fiole. Je me persuade qu'ils vont réduire sa beauté en poussière. Je me réveille et je vois devant moi le corps agité, les lèvres écumantes, le regard éteint de mon Aulus immolé par moi.
Le squelette de la sorcière tressaillit en proie à une violente convulsion. Arbacès la contempla d'un regard qui exprimait la curiosité et le dédain. Cet être misérable, pensait-il, a donc eu des sentiments humains. Sous les cendres de son cœur couve encore le feu qui dévore Arbacès. Ah, voilà comme nous sommes tous. Mystérieux le lien de ces passions mortelles qui unissent les grands et les petits. Il attendit pour lui répondre qu'elle eut un peu recouvré l'usage de ses sens et qu'elle se fut remise sur son siège où elle s'agitait, les yeux fixés sur la flamme du foyer, pendant que de grosses larmes coulaient le long de ses joues livides.
« C'est une douloureuse histoire que la tienne, je l'avoue, dit enfin Albacès. Mais ces émotions-là ne conviennent qu'à la jeunesse. L'âge doit endurcir nos cœurs et ne laisser sensibles que pour nous-mêmes. De même que chaque année ajoute une nouvelle écaille aux crustacés, de même chaque année revient endurcir davantage la cuirasse de notre cœur. Trêve à cette frénésie. Et maintenant, écoute-moi encore une fois. Par la vengeance qui t'a été si chère, je t'ordonne de m'obéir. C'est pour une vengeance que je suis venu vers toi. Ce jeune homme que je veux écarter de mon chemin a traversé mes projets en dépit de mes talismans. Cette chose couverte de pourpre et de broderie, de sourire et de yade, dépourvue d'âme et de raison, ne possédant d'autre charme que sa beauté. Charme maudit, cet insecte, ce glaucus. Oh, je te le dis par Orcus et par Némésis, il doit mourir.
Et s'animant à chaque mot qu'il prononçait, l'Égyptien, oubliant sa faiblesse et son étrange compagne, oubliant tout excepté sa rage avide de vengeance,
parcourait à grands pas l'obscure caverne.
« As-tu dit Glaucus, maître puissant ?»
s'écria tout à coup la sorcière. Et dans son œil terne se peignit une rancune terrible, à ce nom qui lui rappelait un outrage petit à la vérité, mais pour les gens qui vivent dans la solitude, loin du commerce des autres, il n'y a point de petits affronts.
« Oui, il s'appelle ainsi, mais qu'importe le nom. Que d'ici à 3 jours, il n'appartienne plus à la race des vivants. »
« Écoute-moi, »
reprit la sorcière, sortant d'une espèce de rêverie dans laquelle elle s'était plongée après la sentence prononcée par l'Égyptien.
« Écoute-moi, je suis à toi, je suis ton esclave, épargne-moi. Si je donne à la jeune fille dont tu parles de quoi détruire la vie de Glaucus, je serai certainement découverte. Les morts trouvent toujours des vengeurs. Eh bien plus, homme terrible, si on apprenait la visite que tu m'as faite, si ta haine contre Glaucus était connue, tu aurais besoin pour te protéger toi-même des plus puissants secours de la magie.
Ah, dit Arbacès en s'arrêtant soudain, car, voyez l'aveuglement dont la passion couvre les yeux les plus clairvoyants, c'était la première fois que les risques que ce moyen de vengeance pouvait lui faire courir à lui-même se présentaient à son esprit d'ordinaire prudent et circonspect.
« Mais, continua la sorcière, si au lieu de ce breuvage qui brise le cœur, j'en composais un qui trouble et altère le cerveau, qui rend celui qui le prend incapable de continuer sa route dans la carrière ordinaire de la vie, qui a fait un être abject, privé de jugement et de raison. Ta vengeance ne serait-elle pas également satisfaite et ton but également atteint ?
Oh, sorcière, mais non plus la servante, mais la sœur, mais l'égale d'Arbacès. Ah, combien l'esprit de la femme est plus raffiné que le nôtre, même dans la vengeance. Qu'une telle expiation me semble préférable à la mort.
« Et,
poursuivit la sorcière en se complaisant dans son projet,
nous ne courons en ceci que peu de dangers, car notre victime peut perdre la raison par 1000 moyens que les hommes n'osent rechercher. Il peut être allé dans les vignes et avoir rencontré une nymphe. Le vin lui-même peut avoir produit cet effet. On n'apprendit jamais trop avant ces matières dans lesquelles les dieux semblent être intéressés. » Et même au pis-aller, qu'on sache que c'est l'effet d'un filtre d'amour. Les filtres d'amour produisent souvent la folie, et la belle qui s'en sert trouve de l'indulgence. Alors, puissant Hermès, es-tu content de moi ?
Tu vivras 20 ans de plus pour cela, reprit Arbacès. Je renouvellerai l'époque de ton sort sur la face des pâles étoiles. Tu n'auras pas en vain servi le maître de la ceinture flamboyante. Et tiens, Saga, prends ces outils dorés pour te creuser une cellule plus commode dans cette sombre caverne. Un service rendu à Arbacès doit apporter plus de bénéfices que 1000 divinations au moyen du crible et des ciseaux devant les villageois étonnés. En parlant ainsi, il jeta à terre une bourse pesante qui résonna assez agréablement à l'oreille de la sorcière, car, tout en méprisant les jouissances du monde, elle aimait à savoir qu'elle pouvait se les procurer. « Adieu, dit Arbacès, ne mets rien, et veille plus longtemps que les étoiles pour composer ton breuvage. Tu obtiendras le respect de tes sœurs, au rendez-vous du marronnier, lorsque tu leur diras que ton ami et ton patron est l'Égyptien Hermès. Il ne demeura pas pour écouter les adieux et les remerciements de la sorcière. Il retourna d'un pas pressé dans une atmosphère plus pure, sous le ciel éclairé par la lune, et se hâta de descendre la montagne. La magicienne, qui suivait ses pas du seuil, se tint longtemps à l'entrée de la caverne, les yeux fixés sur l'hôte qui s'éloignait, et les rayons de l'astre nocturne en tombant sur son corps si maigre et sur sa figure d'outre-tombe, tandis qu'elle était debout au milieu des rochers, lui donnait tout à fait l'air d'une habitante du triste Orcus, qui, sur les portes formidables de l'enfer, aurait vu s'échapper par le pouvoir de la magie un compagnon qu'elle rappellerait en vain ou qu'elle demanderait à rejoindre. La sorcière entra enfin dans sa caverne, ramassa la bourse bien remplie en soupirant, prit la lampe sur son piédestal et passa dans la partie la plus reculée de son habitation. Elle entra dans un passage noir et rapide, qu'on n'apercevait que lorsqu'on était tout près, et dont l'ouverture était cachée par des rochers aigus et saillants. Elle fit plusieurs pas dans ce passage obscur, comme si elle descendait dans les entrailles de la terre, et soulevant une pierre, elle déposa son trésor dans un trou qui, révélant ses secrets à la lampe qu'elle portait, laissa voir des pièces de monnaie de différentes valeurs, arrachées par elle à la crédulité ou à la reconnaissance de ses visiteurs.
« J'aime à vous regarder, » dit-elle en apostrophant les pièces qui composaient son trésor. « Car lorsque je vous contemple, je sens mieux mon pouvoir. Oui, je suis puissante. J'aurai donc 20 ans encore à vous augmenter, ô grand Hermès. »
Elle replaça la pierre et continua à descendre quelques pas encore, puis s'arrêta devant une fente irrégulière du sol. Là, elle se pencha, elle prêta l'oreille à des sons étranges, pareils à un roulement sourd et lointain, auquel se joignait, par moments, un bruit plus fort qui, pour nous servir d'une comparaison vulgaire fidèle, ressemblait au bruit de l'acier que l'on repasse sur une meule. Et tout à coup, une fumée noire et épaisse sortit de cette fente et se répandit en spirale dans la caverne.
« Les ombres font plus de bruit que d'habitude, » dit la sorcière en secouant ses cheveux gris. « C'est étrange, » ajouta-t-elle en se reculant. « Ce n'est que depuis 2 jours que cette lumière profonde se fait voir. Que peut-elle signifier ?»
Le renard, qui avait accompagné sa maîtresse, fit entendre un long glapissement et courut s'abriter à l'extrémité de la caverne. Au cri de l'animal, la sorcière tressaillit et ressentit un frisson glacé. Ce cri, quoiqu'il ne fût causé par aucun motif particulier, n'en était pas moins pour les esprits superstitieux de cette époque d'un mauvais présage. Elle murmura ses charmes de conjuration et revint elle-même dans la caverne où, au milieu de ses plantes et en se livrant à des incantations, elle se prépara à obéir aux ordres de l'Égyptien.
« Ah, c'est Glaucus, a prétendu que je radotais, » dit-elle en voyant la fumée se dérouler au-dessus du chaudron bouillant.
« Car la mâchoire tombe. » Quand les dents s'en vont, quand le cœur bat à peine, c'est une chose digne de pitié que de radoter. Mais, poursuivit-elle avec un sourire plein d'une joie féroce, lorsque le jeune, le beau, le fort est subitement atteint d'idiotisme, ah, c'est cela qui est terrible. Flammes brûlées, herbes cuisées, crapauds bouillés. « Je l'ai maudit, il sera maudit !»
Cette nuit-là même, et à l'heure qui avait été témoin du sombre et sacrilège entretien d'Arbacès et de la sorcière, Apaïsides était baptisé.
Chapitre 11. Marche des événements. L'intrigue se noue. La trame sourdit, mais le filet change de main.
« Et vous avez le courage, Julia, d'aller visiter ce soir la magicienne du Vésuve et d'en accompagner encore de cet homme terrible ?»«
Oui, Nydia, » répliqua timidement Julia. « Penses-tu donc qu'il y ait réellement quelque chose à craindre ?
ces vieilles sorcières avec leurs miroirs enchantés, leurs cribles tremblants et leurs herbes cueillies au clair de la lune, ne sont, j'imagine, que d'impudentes trompeuses qui n'ont peut-être à leur disposition d'autre charme que celui pour lequel je vais la consulter. Charme qui provient sans doute de la connaissance des herbes et des simples, mais pourquoi aurais-je peur? Ne craignez-vous pas votre compagnon? Lui, Arbacès! Oh, pardiane! Je n'ai jamais vu d'amant plus gracieux que le magicien. S'il n'avait pas la peau si brune, il serait même assez beau. Tout aveugle qu'elle était, Nydia avait assez de pénétration pour s'apercevoir que l'esprit de Julia n'était pas de ceux qui pouvaient s'effrayer des galanteries d'Arbacès. Elle cessa donc de la dissuader, mais un violent désir croissait dans son cœur, celui de savoir si la magie possédait un charme pour lui faire aimer. « Laissez-moi vous accompagner, noble Julia, » dit-elle à la fin. « Ma présence serait-elle une protection, mais j'aimerais rester près de vous jusqu'au dernier moment. » « Ton offre me plaît infiniment, » répondit la fille de Diomède. « Mais comment arranger cela? L'heure du retour sera peut-être avancée, et l'on s'étonnera de ton absence. » « Honnête indulgente, » reprit Nydia. « Si vous me permettez de passer une nuit sous votre toit, je dirais qu'ancienne protectrice et amie, vous m'avez invitée pour toute une journée, afin d'entendre mes chansons thessaliennes. » Sa courtoisie ne vous refusera pas une si légère faveur. Non, fais la demande en ton nom, répondit la hautaine Julia. Je ne m'abaisserai pas à solliciter une faveur de la Napolitaine. Eh bien, soit, je vais vous quitter pour aller faire ma retraite, dit la bouquetière, qui, je n'en doute pas, sera facilement accordée, et je reviendrai promptement. Va, et ton lit sera préparé dans ma propre chambre. Là-dessus, Nydia quittait la belle pompéienne. En retournant chez Lyonnais, elle rencontra le char de Glaucus, dont les chevaux, beaux et fringants, faisaient l'admiration de la foule. Glaucus s'arrêta un moment avec bonté pour parler à la bouquetière. « Ah, toujours fraîche comme les roses, ma gentille Nydia. Et comment se porte ta belle maîtresse? Elle est bien remise, sans doute, de l'orage d'hier. » Je ne l'ai pas vue ce matin, répondit Nydia, mais... Mais quoi? Alors recule un peu, les chevaux sont trop près de toi. Mais pensez-vous qu'Ionée me permettra de passer la journée chez Julia, la fille de Diomède? Elle le désire et elle a été bonne pour moi lorsque j'avais bien peu d'amis. Oh, que les dieux te bénissent le cœur, ton cœur reconnaissant, je te garantis la permission d'Ionée. Bon, mais je resterai toute la nuit. Je ne reviendrai que demain matin, reprit Nydia, qui tressaillit en entendant ces éloges peu mérités en ce moment. Mais comme il plaira à toi et à la belle Julia. Rappelle-moi son souvenir. Et remarque, Nydia, lorsque tu l'entendras parler, la différence qu'il y a entre sa voix et la voix argentine d'Ionée. Les valets! Complètement remis lui-même des émotions de la nuit précédente, ses cheveux flottants, le cœur bondissant et joyeux à chaque élan de ses coursiers partent, véritable type du dieu de son pays, plein de jeunesse et d'amour, Glaucus partit pour se rendre auprès de sa maîtresse. Jouissons tant que nous pouvons du présent. Qui peut lire dans l'avenir? À l'approche de la nuit, Julia, couchée dans sa litière qui était assez large pour que t'en tenir sa compagne aveugle, prit le chemin des bains qu'Arcès lui avait indiqué. Pour un esprit aussi léger que le sien, cette entreprise offrait moins de frayeur que de plaisir. Elle se réjouissait par-dessus tout à la pensée de son prochain triomphe sur cette odieuse napolitaine. Un petit groupe joyeux était réuni auprès de la porte de la ville au moment où la litière passa pour aller s'arrêter à l'entrée particulière des bains destinés aux femmes. Il me semble que je reconnais les esclaves de Diomède, malgré l'obscurité de la nuit, dit un des assistants. Tu dis vrai, Claudius, répondit Salluste. C'est probablement la litière de sa fille Julia. Elle est riche, mon ami. Pourquoi lui fais-tu pas la cour? Pourquoi? Oh, j'avais pensé autrefois que Glaucus l'épouserait. Elle ne dissimule pas son attachement pour lui, et puis, comme il est beau joueur et pas heureux au jeu. Ah, les sesterces seraient passés dans tes mains, sage Claudius. Une femme aussi est une bonne chose lorsqu'elle appartient à un autre. Mais, continua Claudius, puisque Glaucus va, dit-on, épouser la Napolitaine, je crois que je puis essayer de consoler la belle négligée. Après tout, la lampe de l'hymen sera bien dorée, et la beauté du vase peut réconcilier avec l'odeur de la flamme. Seulement, cher Salluste, sois sûr que je ne permettrai pas que Diomède te fasse le fidéi commissaire de la fortune de sa fille. Ah, entrons, mon cher commissator, le vin et les guirlandes nous attendent. Julia, renvoyant ses esclaves dans cette partie de la maison consacrée aux femmes, entra dans les bains avec Nydia, et, refusant le service des baigneuses, passa par une porte dérobée dans le jardin qui était derrière l'établissement. Elle a quelque rendez-vous, sans aucun doute, dit l'un des esclaves. « Qu'est-ce que cela te fait ?» répondit aigrement la surveillante. « Elle paie le bain et gaspille pas le safran. Ces rendez-vous sont le plus beau de notre état. Écoute, n'entends-tu pas la veuve Fulvie frapper les mains ? Allez, cours, folle, cours !» Julia et Nydia, évitant la partie la plus fréquentée du jardin, arrivèrent à l'endroit désigné par l'Égyptien. Dans un petit espace circulaire, garni de gazon, s'élevait une statue de Silène sur laquelle tombait alors la clarté des étoiles. Le dieu de la joie était incliné sur un fragment de rocher. Le lynx de Bacchus reposait à ses pieds, et il pressait sur sa bouche, de toute la force de son bras, une grappe de raisin qu'il paraissait prendre grand plaisir à dévorer. « Je ne vois pas le magicien, » dit Julia en regardant autour d'elle. Mais comme elle parlait, l'Égyptien sortit d'un bosquet voisin et une pâle lumière se refléta sur sa robe flottante. « Salvez, douce jeune fille, mais qui est donc avec vous? Nous ne devions pas avoir de compagnon. » « Ce n'est que la bouquetière aveugle, sage magicien, » répondit Julia. « Nydia, thessalienne elle-même. »« Ah oui, Nydia, » reprit l'Égyptien, « je la connais bien. » Nydia recula en frissonnant. « Tu es venu chez moi, je crois, » dit-il en se rapprochant de l'oreille de Nydia. « Tu sais quel serment tu as fait, silence et mystère. « Allons, comme maintenant, souviens-toi de cela. Cependant, » ajouta-t-il, comme en se parlant à lui-même, « pourquoi se confier plus qu'il n'est nécessaire même à une aveugle ? Julia, as-tu donc peur de te remettre à ma garde ? Le magicien est moins redoutable qu'il ne paraît l'être. » Tout en parlant, il tira doucement Julia à part. « La sorcière n'aime pas beaucoup à recevoir plusieurs visiteurs à la fois. Laissez Nydia ici jusqu'à notre retour. Elle ne peut nous être d'aucune utilité, et s'il s'agit de protection, votre beauté suffit, votre beauté et votre rang. Oui, Julia, je connais votre nom et votre naissance. Venez, confiez-vous à moi, belle rivale de la plus jeune des naïades. » L'orgueilleuse Julia n'était pas, comme nous l'avons vu, prompte à s'alarmer. Elle fut flattée des compliments d'Arbacès et consentit à ne pas emmener Nydia, qui ne fit pas de difficulté de son côté pour rester. Au son de la voix de l'Égyptien, toutes les terreurs qui lui avaient inspiré étaient revenues. Elle éprouva une sensation de plaisir en apprenant qu'elle ne serait pas du voyage dans cette fâcheuse compagnie. Elle retourna à la maison des bains et attendit leur retour dans une chambre particulière de l'établissement. Les pensées qui assaillirent la sauvage enfant, tout le temps qu'elle resta ainsi immobile dans son obscurité naturelle, furent amères et nombreuses. Elle songea à sa propre destinée, loin de sa terre natale, loin des doux soins qui avaient autrefois adouci les chagrins de son enfance, passagers comme les nuages d'une matinée d'avril. Elle songea qu'elle était privée de la lumière du jour, n'ayant autour d'elle que des étrangers pour guider ses pas, frappée dans les plus doux sentiments de son cœur, aimant sans espoir, sans autre espoir du moins que le rayon qui avait traversé son esprit lorsque son imagination thessalienne s'était informée de la puissance des charmes et des dons de la magie. La nature avait semé dans le cœur de cette pauvre fille des germes de vertu qui n'étaient pas destinés à mûrir. Les leçons de l'adversité ne sont pas toujours salutaires. Quelquefois elles adoucissent et corrigent, mais quelquefois aussi elles gâtent et endurcissent l'âme. Lorsque nous nous voyons plus durement traités par le sort que les personnes qui sont autour de nous, et que nous ne trouvons pas dans nos actions les raisons de cette sévérité, nous ne sommes que trop portés à regarder le monde comme notre ennemi, à nous mettre en défiance vis-à-vis de tous, à nous révolter contre notre douceur naturelle, et à nous précipiter dans les plus sombres passions, si aisément excitées par le sentiment de l'injustice. Vendue comme esclave dès ses jeunes ans, condamnée à servir un maître sordide et d'un vide métier, ne changeant de situation que pour sentir par son amour un sort encore plus douloureux, Nydia avait vu les meilleurs sentiments dont son cœur était rempli se changer en amertume et en douleur. La conscience du juste et de l'injuste était pervertie par la passion qui s'était emparée d'elle. Et les émotions tragiques et fortes que nous rencontrons chez quelques femmes de l'Antiquité, les Myra, les Médée, qui envahissaient et entraînaient une femme en proie à l'amour, grondaient et s'agitaient dans son cœur. Le temps passa, et Nydia plongée encore dans ses tristes méditations, entendit un léger pas qui pénétrait dans la chambre où elle était. « Ah, remercions les dieux immortels, » dit Julia, « me voici de retour. J'ai quitté cette affreuse caverne. Viens, Nydia, partons au plus vite. » À peine furent-elles assises dans la litière que Julia reprit ainsi d'une voix émue. « Oh, quelle scène! Quelles terribles imprécations! Et la figure sépulcrale de cette sorcière! Ah, oh, mais ne parlons pas de cela. J'ai obtenu le breuvage. Ses effets sont certains. Ma rivale deviendra indifférente aux yeux de celui que j'aime. Et seul, mais seul, je serai l'idole de Glaucus. » De Glaucus ? S'écria Nydia. « Ah oui, je t'ai dit d'abord, enfant, que ce n'était pas l'Athénien que j'aimais. Mais maintenant, je puis me confier à toi. Moi, c'est lui. C'est le beau grec que j'aime. » Quelles furent alors les émotions de Nydia ? Elle avait pris part, elle avait assisté à un acte qui devait enlever Glaucus à Ionée, mais seulement pour transporter plus irrévocablement encore, par le pouvoir de la magie, ses affections à une autre. Son cœur s'oppressa au point qu'elle faillit être suffoquée. Elle pouvait à peine respirer. Grâce à l'obscurité de la voiture, Julia ne s'aperçut pas de l'agitation de sa compagne. Elle s'enivrait à l'idée du prochain effet de son filtre, du triomphe qu'elle obtiendrait sous Ioné, en faisant de temps à autre quelques digressions sur l'horreur de la scène qui venait d'avoir lieu, sur l'immobile maintien d'Arbacès et sur l'autorité que lui reconnaissait la terrible saga. Nydia eut le temps de recouvrer la plénitude de son esprit. Une pensée la frappa. Elle devait coucher dans la chambre de Julia. Elle pourrait s'emparer du filtre. Elles arrivèrent à la maison de Diomède et rentrèrent dans l'appartement de Julia, où un repas du soir les attendait. Bien, Nydia, tu dois avoir froid. L'air était gelé cette nuit. Pour moi, je suis glacée. Et Julia buvait sans hésitation de fortes rasades de vin épicé. Vous avez le filtre, dit Nydia. Laissez-moi le tenir dans mes mains. Quelle petite fiole! De quelle couleur est ce breuvage? Clair comme le cristal, répondit Julia en reprenant le filtre. Tu ne pourrais pas le distinguer avec de l'eau pure. La sorcière m'a assuré qu'il n'avait aucun goût. Quelque petite que soit la fiole, elle suffit pour une vie de fidélité. On la verse dans quelque autre liquide et Glaucus ne saura ce qu'il a bu qu'en en ressentant l'effet. Ah, ce breuvage est donc exactement en apparence comme cette eau. Oui, limpide et sans couleur, comme elle, mais qu'il me paraît brillante à moi. Je crois voir une essence de rosée recueillie au clair de la lune. Lumineux breuvage, comme tu brilles sur mes espérances à travers ton vase de cristal. Et comment est-il scellé? Ou par un petit bouchon du même métal? Je viens de l'ôter. Non, aucune odeur. C'est étrange que ce qui n'affecte aucun sens puisse leur commander à tous. L'effet est-il instantané? Ordinairement, mais parfois, il se fait attendre quelques heures. Oh, quel doux parfum, dit Nydia tout à coup, en prenant sur la table un petit flacon et en se penchant pour le respirer. Trouves-tu? Reprit Julia. Ce flacon est entouré de pierres d'une certaine valeur. Tu as refusé hier mon bracelet. Veux-tu accepter ce flacon? Ce sont de tels parfums qui peuvent seuls rappeler à une pauvre aveugle la généreuse Julia. Oui, mais si le flacon n'est pas d'un prix trop élevé. Oh non, j'en ai encore deux plus riches et plus beaux. Allez, prends-le, mon enfant. Nydia s'inclina en signe de reconnaissance et plaça le flacon dans son sein. Et le breuvage est efficace, ajouta-t-elle, quelle que soit la personne qui l'administre. Oui, si la plus hideuse vieille, qui soit sous le soleil, en faisait le don, sa vertu est telle que Glaucus la regarderait comme la plus belle des créatures. Julia, échauffée par le vin et par la réaction qui s'était opérée dans son esprit, était pleine d'animation et de gaieté. Elle riait aux éclats en parlant de mille choses, et ce ne fut que bien avant dans la nuit, et presque au matin, qu'elle appela ses esclaves pour la déshabiller. Les esclaves partis, elle dit à Nydia, « Je ne veux pas que cette liqueur sacrée me quitte jusqu'à l'heure où j'en userai. Repose sous mon oreiller, brillante essence, et donne-moi de heureux songes. » Elle plaça sa fiole sous son oreiller. Le cœur de Nydia battait vivement. « Et pourquoi ne bois-tu que de l'eau pure, Nydia? Prends le vin à côté de toi. »« J'ai un peu de fièvre, reprit l'aveugle, et l'eau me rafraîchit. je veux placer cette carafe à côté de mon lit. C'est une excellente boisson que l'eau pour nous rafraîchir dans ces nuits d'été, lorsque le sommeil ne descend pas sur nos paupières. Belle Julia, je te quitterai demain matin de bonne heure. Ionnet me l'a recommandé, peut-être avant que tu sois éveillée. Mais reçois de nouveau mes félicitations. Merci. Quand nous nous reverrons, tu trouveras sans doute Glaucus à mes pieds. Elles allèrent se reposer, chacune sur son lit, et Julia, fatiguée de l'excitation de cette journée, s'endormit promptement. Mais la thèse, alienne, attentive, roulait des pensées inquiètes et brûlantes dans son esprit. Elle écoutait la calme respiration de Julia, et son oreille, accoutumée à distinguer les plus légers bruits, comprit bientôt que sa compagne était plongée dans un profond sommeil. « Maintenant que Vénus me soit en aide, » dit-elle doucement. Elle se leva légèrement, répandit le parfum que lui avait donné la fille de Diomède sur le pavé de marbre, passa plusieurs fois de l'eau dans le flacon, puis ayant trouvé aisément le lit de Julia, car la nuit était pour elle comme le jour, elle glissa sa tremblante main sous l'oreiller et saisit la fiole. Julia ne fit pas un mouvement. Son haleine effleurait d'un souffle régulier les joues brûlantes de l'aveugle. Nydia, débouchant alors la fiole, en versa le contenu dans son flacon sans en perdre une goutte. Remplissant ensuite la fiole avec de l'eau que Julia lui avait assurée être semblable à la liqueur du filtre, elle replaça cette fiole à sa place où elle avait prise. Elle retourna alors se coucher et attendit, avec quel trouble dans sa pensée, que le jour vint apparaître. Le soleil se leva. Julia dormait toujours. Nydia s'habilla sans bruit, plaça son trésor soigneusement dans son sein, prit son bâton et se hâta de quitter la maison. Le portier Médon la salua d'un bonjour amical pendant qu'elle descendait les degrés qui conduisaient à la rue. Elle ne l'entendit pas. La confusion régnait dans son esprit. Elle était perdue dans le tourbillon et le tumulte de ses pensées dont chacune était une passion. Elle sentit l'air pur du matin sur ses joues, mais il ne porta point de fraîcheur dans ses brûlantes veines. « Glaucus, murmura-t-elle, tous les filtres de la puissante magie ne pourront faire que tu m'aimes autant que je t'aime. Ionée. « Ah non, loin de moi toute hésitation, loin de moi tout remords. Glaucus, ma destinée dans ton sourire, et la tienne, ô espérance, ô joie, ô transport, ta destinée est dans mes mains. »